très heureux de pouvoir vous apporter la parole ce matin. C'est vraiment un privilège. Et justement, l'habitude est qu'on voit faire la louange en avant, mais là, c'est le fun de pouvoir vous apporter la parole de Dieu ce matin. Et là, j'ai un petit parfait, un petit feedback. Et ouais, on a besoin de grâce, n'est-ce pas? Besoin de grâce, besoin de repos, hein, l'été qui arrive à son terme. Je sais pas, y en a-tu, pour ceux que ça concerne, y en a-tu qui ont hâte à leur retraite? Peut-être qu'il y en a qui sont plus proches que d'autres, y en a qui le sont déjà. Enfin, à la retraite, de plus avoir à travailler, de pouvoir voyager n'importe où ce qu'on veut, de pouvoir aller, je pense qu'on a des gens qui viennent du Brésil qui sont là ce matin, de pouvoir, je bouge-tu trop là? Ouais, j'ai comme une cage là, qu'il faut que je respecte. Donc, de pouvoir voyager, de pouvoir faire ce qu'on veut, de pouvoir peut-être même aller jouer au bingo aussi. Hein? ou ceux qui, je pense, il y en a qui recommencent l'école demain. Donc, hein, je ne sais pas si vous avez peut-être déjà hâte même au prochain congé pour pouvoir dormir sans mettre de cadran, quand ce n'est même pas encore fini. Mais ça vous est-tu déjà arrivé aussi d'être fatigué, mais comme d'avoir besoin de vacances à cause de vos vacances? Genre, qui était comme trop fatigante. Finalement, vous finissez vos vacances en être plus fatigué que comme vous les avez commencé. Ouais. Mais c'est quoi vraiment le repos? Est-ce que c'est de plus avoir de responsabilités, de plus avoir d'agenda, de plus avoir d'école, puis de travail, de enfin pouvoir faire ce qu'on veut? Je sais pas pour vous, mais je pense qu'on s'entend pour dire que le confinement, que rester confiné pendant 6 mois et des lunes, c'est pas vraiment reposant. En tout cas, moi, ça a été tout le contraire, sauf reposant. Là, peut-être en plus, si vous avez les enfants qui étaient restés toute la journée, jeunes enfants à la maison, ou juste de rester tout seul, isolé, à pouvoir rien faire. Il y a des études qui montrent vraiment que être mis en quarantaine, ça fait pas vraiment ça peut créer vraiment du stress, puis même des hausses de dépression durant des périodes comme ça. Il y a des, même au travail, on peut connaître, vous avez un collègue, tu sais, on voit des personnes qui passent au travers des périodes difficiles, des burn-out, des épuisements professionnels, qui est même les burn-out qui sont rentrés officiellement l'année passée dans la classification internationale des maladies par l'OMS. Donc, le monde crie leur besoin de repos et de paix. Et comme vous savez, la vie amène son lot d'épreuves, son lot de choses, puis nos âmes peuvent traverser des périodes de fatigue profonde. La fatigue profonde, des fois avec un sentiment d'épuisement, de découragement intérieur. C'est certainement pour différentes raisons, à différents niveaux aussi. Mais on a tellement besoin de la grâce de Dieu ce matin. Mais est-ce possible de trouver le vrai repos pour nos âmes? De trouver le vrai repos, même au travers de nos épreuves. Et les Hébreux aussi avaient cette même aspiration-là de pouvoir trouver le repos. Dieu leur avait promis une place où qu'il allait couler le lait et le miel, une place où ce qu'il allait avoir le repos, qu'il allait enfin avoir de la paix, l'abondance, qu'il vivrait plus l'esclavage qu'il vivait en Égypte. Mais finalement, ils ont fini par errer 40 ans dans le désert. Puis vous connaissez l'expression « faut le voir pour le croire ». Tout le monde connaît ça. Qui veut juste simplement dire que quelque chose est tellement incroyable qu'on j'ai besoin de le voir là, parce que comme ça n'a vraiment pas d'allure ton histoire. Et j'ai besoin de le voir de mes propres yeux là. Peut-être ceux qui sont aussi, qui étaient ados là, dans les années 90, là, vous souvenez de l'émission à TQS, il faut le voir pour le croire, qui est avant que YouTube existe, là, puis justement, on salue les gens à la maison, qui est un beau moyen qu'on peut aujourd'hui utiliser. Mais les Juifs, qui étaient sortis d'Égypte, pour se rendre à leur terre promise, eux, ils n'avaient pas besoin de voir pour le croire. Eux, ils avaient plutôt besoin de le croire pour le voir. de le croire pour le voir. Puis c'est ici qu'on trouve notre histoire ce matin. Puis si vous voulez tourner dans Hébreux au chapitre 4, il va être ici à l'écran aussi pour suivre. Qui est un peu, c'est ça, là, le peuple vient de se faire délivrer de l'esclavage en Égypte. Puis l'auteur, il fait référence, dans le fond, à cet épisode-là. Là, on est dans c'est dans le Nouveau Testament, le livre aux Hébreux, mais il raconte une histoire qui s'est passée il y a vraiment longtemps. Et là, il dit au verset 1, « Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. » En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui l'ont écouté, à ceux qui ont écouté. Quant à nous, qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du septième jour. Et Dieu se reposa de toute son activité le septième jour. Et dans ce passage, fait référence à Genèse, bien évidemment, le passage précédent. Et dans ce passage suivant, il dit encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Et c'est donc là, ici, qu'on voit que, plus loin au chapitre 3, en fait, puis si vous cherchez un livre à lire là, dans votre Bible, hébreu, vraiment très, très, très riche, toujours bon, et qui parle au chapitre 3 de cette histoire-là du peuple d'Israël qui était errant dans le désert après l'esclavage en Égypte, puis qui ont été délivrés par l'intérim de Moïse. La mer Rouge séparée en deux, puis tout le peuple, justement, vient d'être témoin de miracles vraiment incroyable. Tu sais, genre de miracle qu'il faut le voir pour le croire. Mais l'auteur explique ce qui s'est passé avant que les Juifs arrivent au mont Sinaï, à la montagne, pour recevoir les 10 commandements de Dieu et les autres. Bien là, le peuple se trouvait à camper parce qu'il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait pas d'Airbnb là, dans le temps. Là. Fait que là, il y avait leur tente, ils campaient dans le désert et à un endroit qui a été par après appelé les eaux de Meriba. Et là, tout le monde était en train de chialer. Tout le monde était en train de se plaindre parce que il n'y avait plus de Pepsi. Non. Parce qu'il y avait soif, puis là, il pensait mourir comme Moïse nous a fait sortir d'Égypte pour aller mourir au désert. C'est quoi, là? À quoi t'as pensé? Puis là, il chialait, il murmurait. Suite à ça, Dieu a dit à Moïse, frappe le rocher. Frappe le rocher avec ton bâton et là, l'eau, une source d'eau vive va en sortir. Et c'est là que tout le peuple, après ce miracle-là, a pu boire à satiété de l'eau. Dans Exode, qu'on trouve cette histoire-là. Mais cet épisode de chialage, c'en était un parmi tant d'autres parce que c'est ça répété tout le long de leur voyage, tout le long de leur voyage. Ils ont envoyé des espions pour explorer le pays promis, mais suite à leur espionnage, ils ont eu peur. Les espions, ils ont eu peur. Puis, pas tous les espions, par exemple, mais là, ils se sont mis à se plaindre. Puis, voyons, tu vas encore nous faire mourir. Les habitants sont bien trop grands et puissants. Et là, c'est suite ça, la goutte, l'événement qui a fait que le peuple a erré durant 40 ans dans le désert à cause de leur incrédulité. Tout le peuple... sont morts dans le désert, sauf deux personnes, Josué et Caleb. Mais tous les autres n'ont pas survécu et n'ont pas pu entrer dans la terre promise, qui avait été promise à leur ancêtre Abraham, dans Genèse, qui disait que Dieu a dit à Abraham, « J'établirai mon alliance entre toi et moi, ainsi qu'à tes descendants après toi. » Tout le pays que tu vois, là, tout le pays que tu vois, je te le donne. Il sera leur propriété pour toujours et je serai leur Dieu. Mais le peuple n'a pas eu confiance que Dieu allait vraiment accomplir ses promesses. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu entrer dans le repos. Et à cause de leur incrédulité, ils sont restés en arrière à cause de leur scepticisme. Ils étaient sceptiques face à la bonne nouvelle que Dieu leur avait envoyée. Mais pourquoi le peuple avait besoin de croire pour rentrer? Ils auraient pu juste prendre leur bagage, puis... Ben, en fait, non, ils tournaient en rond, là. Mais pourquoi ils avaient besoin de croire pour rentrer? C'est parce que le repos était réservé à celui qui croit. Le repos de Dieu était réservé à celui qui allait croire. Parce qu'il y avait besoin de croire Dieu pour le voir, pour l'avoir, cette terre promise-là. Puis c'est la chose ici, le péché du peuple, c'était pas qu'il était en train de renier l'existence de Dieu. Il n'était pas en train de douter que Dieu existait puis qu'il allait les amener où ce qui était. C'était pas l'enjeu ici. Le péché était que dans leur chiolage, le peuple était en train de montrer qu'il doutait, pas de son existence, mais doutait de ses promesses. Il doutait de ce que Dieu avait dit à leur ancêtre. Il doutait qu'il allait être fidèle à son alliance. Fait qu'ultimement, il doutait de son amour. Ultimement, le péché d'Israël, c'était en fait qu'il était en train de douter de l'amour de Dieu pour eux. Envers eux. Parce que si je n'ai pas confiance que Dieu est tout-puissant, si je n'ai pas confiance que Dieu est tout-puissant pour tout faire, qu'il m'aime assez pour rester fidèle à ses engagements, rester fidèle à ses promesses, mais je ne peux pas croire aussi en même temps qu'il peut donner du repos à mon âme. Parce qu'un Dieu qui n'est pas tout-puissant et qui ne reste pas fidèle à ses promesses, mais ce n'est pas un Dieu qui cherche mon bien. Et je me prive donc moi-même, je me bloque moi-même de la bénédiction de Dieu, de son repos. Parce que la vérité est que quand je me repose, je fais confiance à Dieu. Quand je me repose, je fais confiance au fait que Dieu est plus grand que moi. Au fait que c'est lui qui est au contrôle. Je lâche prise sur mes craintes, sur mes inquiétudes. Je reconnais que je suis limité, mais que le Dieu des miracles, lui, il est illimité. Il y a des moments dans notre vie où les épreuves peuvent nous amener à douter de l'amour de Dieu et endurcir nos cœurs au point de ne plus être capable que Dieu est fidèle, de plus concevoir que Dieu est fidèle, riche en bonté et souverain sur l'univers. Il y a la douleur, la douleur nous fait avoir peur. Et des fois, c'est la perte d'un être cher est venu trop tôt. La maladie qui frappe à nos portes. Un échec qui contient Dieu responsable. Un mariage qui est détruit ou qui n'a pas marché. Et qu'on tient Dieu responsable de ces choses-là. Et pour ma part, il y a eu des moments d'épreuve aussi où j'ai douté de l'amour de Dieu envers moi. C'est comme, Dieu, si tu étais Dieu, ces choses-là ne m'arriveraient pas. Ces choses-là ne pourraient pas m'arriver. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi, pour moi, c'était tout sauf reposant. Mon cœur était troublé. Mais quand je fais confiance à Dieu, mon cœur est paisible. Quand je lui fais confiance, mon cœur est paisible. Il est au repos. Le vrai repos, c'est de lui faire confiance. Confiance qui est puissante pour guérir, pour pourvoir à mes besoins, accomplir ce qui est promis. Et peu importe les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez en ce moment, je veux vraiment vous encourager à garder la foi. Gardez courage dans les promesses de Dieu. Gardez courage dans le fait qu'il est puissant, qu'il nous aime et qu'il est fidèle à ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit va s'accomplir. Il a promis un repos à tous ceux qui auront cru au Sauveur. Faut le croire pour le voir. Mais comment est-ce possible pour Israël d'être témoin de miracles aussi incroyables puis de douter de l'amour de Dieu par ensuite? Il me semble... Moi, voir quelqu'un séparer la mer en deux, là, après ça, je te suis n'importe où, là, je te fais confiance au bout. Mais ça, c'est parce que la parole est inutile. La parole de Dieu est inutile si, lorsqu'on l'entend et on la reçoit, en fait, lorsqu'on l'entend, on ne la reçoit pas avec foi. En d'autres mots, la parole est inutile si elle tombe dans l'oreille d'un sourd. On a aussi un petit signe à l'appui. Mais je pense que peut-être les parents ici, là, les parents, ils vont se reconnaître. Là, c'est les fois que vous avez besoin de demander un service à votre enfant. Mais il est en train de gamer avec ses jeux vidéo. Ou bien, il fait, je ne sais pas, là, il fait des paniers dehors, il fait de quoi, là, un petit sport. Ou bien, il est en train d'être sur Instagram, là, les réseaux sociaux. Et là, vous lui demandez un service. C'est comme si... C'était comme si ça rentrait par une oreille et ça ressortait de l'autre. Il est vraiment pas attentif. Là, c'est « Ah, j'ai aucune idée qu'est-ce que tu me dis. » Mais je sais qu'il n'y a aucun ado qui, ici, frère, qui fait ça. Là. C'est comme tu parles puis c'est comme tomber dans l'oreille d'un sourd. Et là, je reprends la question, comment est-ce que le peuple d'Israël peut être témoin de miracles aussi incroyables puis douter de l'amour de Dieu par la suite? C'est que le peuple de Dieu avait les Juifs avaient le cœur tellement endurci que tout ce que Dieu disait, c'était comme s'il rentrait par une oreille, il sortait de l'autre. C'est comme si, au lieu d'écouter, de faire confiance à Dieu, il chialait, se plaignait, s'apitoyait sur leur sort, au point de leur cœur était insensible, leur cœur était endurci. Il n'y avait rien. La parole de Dieu ne pouvait pas faire des racines là-dedans. C'est comme si... C'est comme s'ils avaient tellement peur de ce qui allait arriver dans le désert que tout ce que Dieu leur avait promis était resté sans effet. Puis vous savez comment que des fois on peut être tellement occupé aussi par nos... on peut être préoccupé par toutes sortes de choses, puis des choses de la vie qu'on vient à laisser des choses vraiment nous angoisser ou nous faire oublier Dieu. Puis qu'on commence à avoir peur de manquer quelque chose. Peur de manquer d'argent peut-être. Peur de manquer de travail. Peur de manquer... de contrôle, peur de manquer d'amour. C'est là que nos cœurs sont troublés et qu'ils cherchent le repos. Mais en quoi est-ce que mon âme cherche son repos ce matin? Ça peut nous arriver aussi, durant notre marche avec Dieu, de se faire prendre par la peur. C'est normal. La peur, Jésus a eu peur. Il a été angoissé. Mais nous, quand on a peur de manquer de quelque chose, peur que Dieu ne nous aide pas à temps, peur de ce qui pourrait nous arriver, on peut commencer à douter que Dieu nous aime vraiment. Et c'est là, c'est dans le doute de l'amour de Dieu et le trouble. Mais Dieu est le seul qui peut apaiser mon cœur. C'est dans le repos que se trouve la paix. Puis quand je me repose, quand je me repose, je fais confiance à Dieu. Et là, en continuant, l'auteur, il donne un avertissement. Si on reprend le verset 1 là, qu'on a vu, là, il donne comme un avertissement. Il dit, « Soyons dans la crainte qu'un d'entre nous ne soit resté en arrière pendant que la promesse est toujours en vigueur. » Et là, peur de quoi? Peur... Il fait référence à l'histoire des Israélites qui viennent de parler dans le chapitre avant. Peur, crainte que quelqu'un tombe, ne soit laissé derrière puis qu'il se prive du repos de Dieu. Il me semblait qu'il n'y a plus de crainte en Jésus. Il n'y a plus de peur. Il a surmonté. On n'est plus esclave de la peur, non? Et oui, c'est vrai. Amen, on n'est plus esclave de la peur. Par sa victoire, sur la mort, il n'y a plus aucune crainte. Et justement, quelques chapitres plus loin, au chapitre 2, verset 15, il va dire que Jésus est mort pour venir libérer tous ceux que la peur de la mort retenait en esclavage. Il n'y a plus à craindre la mort, plus à craindre le malin. Peur en Jésus. Mais... il nous dit de craindre. Craignons donc de tomber. Craignons donc de douter de l'amour de Dieu envers nous. Un peu comme l'enfant qui veut traverser la rue puis qui a peur, puis que là, son parent lui dit... Si tu veux traverser la rue, il faut que tu prennes ma main. ne va pas jouer dans la rue parce que c'est dangereux. Il ne faut pas que tu ailles dans la rue. Même si ton ballon, il s'en va de l'autre côté. Tout dépendant de l'âge, ça c'est sûr. Il ne va pas jouer dans la rue, il peut arriver quelque chose de vraiment grave. À moins que peut-être il y en a que certaines journées, vous aimeriez dire « va donc jouer dans le trafic, puis laisse-moi tranquille ». Mais il y en a que c'est peut-être un souvenir plus lointain que d'autres, là, 30, 40, 50 ans, prendre la main de son parent, puis pour traverser la rue. Mais je pense qu'on s'entend tous pour dire, tout le monde ici, là, les enfants, tout le monde ici, là, on peut vous assurer, les enfants, ça a gâché l'enfance de personne. Personne n'a eu une enfance gâchée parce qu'il n'y avait pas le droit de jouer dans la rue. T'as une cour, t'as une piscine, t'as une maison, t'as des amis. T'as pas besoin de la rue. Dieu fait un peu la même chose avec nous. Regarde tout ce que je te donne, c'est tout à toi. T'as pas besoin d'aller jouer dans la rue. Que celui, puis on connaît bien peut-être le verset qui dit que celui qui se croit debout ne prenne garde de tomber. Et ça ici, c'est le fondement derrière la vision de nos groupes maison. Puis j'avais à cœur d'en parler aussi ce matin. Plus loin dans le chapitre, il va parler de veiller les uns sur les autres, de s'encourager aux bonnes œuvres, mutuellement, à l'amour. Et on se réunit à chaque semaine pour veiller puis prendre soin les uns sur les autres. Entre frères et sœurs, s'écouter, s'encourager, prier les uns pour les autres. Puis nos groupes maison n'existent pas pour être un club social. Bien que le social en fasse partie, parce que des relations, ça fait partie, hein, il y a du social. Mais ce n'est pas pour ça qu'il existe. Il existe parce que c'est une question de vie ou de mort. De vie ou de mort sur ma vie, en fait, ma condition spirituelle. Que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber, que Paul nous dit aux Corinthiens. Celui qui pense ne pas avoir besoin d'une communauté de croyants, c'est une folie. Parce qu'il y a plus. C'est pas la mort puis le malin qu'on doit craindre, c'est ce qui se trouve dans nos propres cœurs. Et d'avoir peur que l'un d'entre nous abandonne la foi. Avoir peur que l'un d'entre nous manque l'héritage promis. Croire, puis avoir peur d'arrêter de croire que Dieu nous aime. D'avoir peur, d'avoir confiance plus en nous-mêmes qu'en Dieu. Et c'est pour ça qu'on se réunit à chaque semaine dans les maisons, et en ce moment par vidéo, mais c'est pour s'encourager mutuellement, à veiller les uns sur les autres, puis aux bonnes œuvres, parce que c'est terrible ce qui se trouve. Autre ailleurs que dans le repos de Dieu. Il y a trop de personnes qui ne finissent pas la course. Et ma question aussi pour vous, c'est est-ce que vous êtes en relation avec d'autres chrétiens à l'extérieur du dimanche matin? Ou bien le dimanche matin, c'est tellement une course d'arriver puis de partir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un regard sur ta vie et qui combat, pas pour te pointer du doigt puis dire ce que tu ne fais pas correct, mais pour combattre avec toi dans la prière. Et surtout avec l'Église en ligne, surtout les gens à la maison, ne restez pas isolés à la maison où est-ce que vous êtes. Contactez Claude Vincent, c'est lui qui est notre responsable de groupe maison. Parce que le combat de la vie chrétienne, c'est un combat qui est intense et éprouvant, et on a besoin les uns les autres de se relever, de s'encourager à persévérer dans notre course. Et Dieu te fait l'invitation ce matin à un repos pour tous ceux qui auront cru en la bonne nouvelle. Et c'est ce qui nous amène à la suite de Hébreux. J'ai perdu ma page, mais le verset 6 de Hébreux. Certains ont encore la possibilité d'y entrer. Il continue en disant, « Et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu fixe un nouveau jour, de nouveau un jour. » Aujourd'hui, en disant bien longtemps après, par David, cette parole déjà citée, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne leur parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. La bonne nouvelle du repos, est que le repos de Dieu n'est pas back order. Le repos de Dieu, il n'est pas en attente. Il n'est pas fini sur les tablettes. Le repos de Dieu, il est toujours aujourd'hui disponible. Ce n'était pas juste pour l'Israël à l'époque. Il est aujourd'hui disponible. Il lance une invitation à toute l'humanité à pouvoir entrer dans son repos. Il n'est pas encore trop tard. Et parlant de trop tard, là, je ne sais pas si vous étiez aussi, là, vous autres, dans vos plans de confinement, de faire votre propre pain, peut-être, ou faire refaire votre patio. Je sais que André a manqué de bois, ou en fait, il a bien bargainé pour avoir des petits bouts de bois un peu bric-à-brac. Tout le monde, pendant le confinement, là, voulait du bois, de la farine, voulait faire du pain. C'était bien les deux choses qui étaient back-order dans, dans les tablettes. Tout le monde avait la même bonne idée puis qui se pitchait. On sait que c'est jamais le fun d'arriver à une place et t'arrives. Soit, t'arrives à une place, il n'y a plus de place au restaurant, il faut que t'attende. T'arrives pour appeler un service. Nous sommes fermés depuis 17 heures ce soir. Tu as besoin d'un service là puis t'arrives trop tard. Mais Dieu, son repos, lui, il n'est pas back-order. Il n'est pas trop tard. Il est encore disponible aujourd'hui. Puis ça, c'est une merveilleuse nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le repos de Dieu est une invitation ouverte aujourd'hui qui nous fait à venir dans sa présence. Et quand que je me repose dans sa présence, bien, en fait, sa présence me rassure. Et s'il nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Mais moi, je suis un être humain, là, je peux bien comprendre que j'ai besoin de repos à un moment donné, mais si Dieu est Dieu, là, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de prendre un repos? Mais semble justement, si Dieu n'a pas besoin de se reposer, hein? Imaginez que c'était écrit dans la Genèse. Après que Dieu ait créé le monde en 6 jours, il vit que tout était bon. Et là, le 7e jour, Dieu était fatigué et il a pris un congé bien mérité. Non, c'est pas ça qu'on trouve. C'est pas ça qu'on trouve. Le repos, parce que le repos de Dieu, pour Dieu, c'est pas simplement une inactivité, c'est pas le relâchement qui fait que Dieu se repose. C'est pas la détente qui apporte le repos. La preuve, c'est qu'on peut passer la journée, puis on l'a tout peut-être déjà fait, passer la journée là, à regarder Netflix, série après série, une émission à la fois, puis comme, ah, l'émission ajoute seule, faut que je l'écoute. Il me l'impose. Une émission après l'autre qui passe tout seul, ou bien de regarder la télé toute la journée, puis là, tu t'en vas te coucher le soir, c'est comme, ouais, dans le fond, hein, je suis pas vraiment reposé, j'ai l'impression d'être plus fatigué qu'au début de la journée. Parce qu'en fait, on ne s'est pas souvent reposé, on s'est juste diverti. Mais là, le 7e jour, Dieu s'arrête. Dieu s'arrête de tout. Puis là, il bénit son œuvre. Non pas pour prendre congé. Puis là, de faire, voici, j'ai fini ce que j'ai fait, puis là, je m'en vais. Et non. Il s'est reposé pour s'asseoir sur son trône, sur le trône au-dessus du monde, et pour régner sur sa création. Lorsque Hébreux parle que celui qui entre dans le repos avec Dieu se repose de ses œuvres, comme on l'a vu au verset précédent, comme Dieu aussi se repose, mais c'est ce que Dieu fait depuis le début de la création. Il lance une invitation ouverte à le joindre dans son repos. Venez dans mon repos, à se joindre à lui dans son règne. Et vous remarquerez que le 7e jour dans la Genèse, le 7e jour, c'est le seul jour qui n'a pas un matin et un soir. Tous les autres ont un matin et un soir, sauf le 7e jour. Dieu, en ce moment, se repose, règne sur sa création puis nous invite. La promesse, le jour, il n'est pas terminé. La promesse, aujourd'hui, est toujours en vigueur. Et le sabbat, pour les Juifs, ce n'était pas en réalité un appel à se détendre puis à se relâcher, mais c'était un appel à laisser leurs préoccupations de la semaine. Puis vous savez comment on en a des préoccupations durant une semaine, mais à laisser les préoccupations habituelles centrées sur nos besoins pour participer à la bénédiction que Dieu avait. Et c'est ça l'Église, ce matin, c'est ça l'Église. C'est pour ça qu'on se réunit ensemble. C'est pour célébrer le règne de Dieu. On se réunit pour se tourner vers Dieu, chercher à lui plaire, le louer. Merci encore, François, de nous avoir dirigés dans la louange, le contempler, sa splendeur, son œuvre, et recevoir quelque chose de lui. Et le vrai repos, c'est de savoir qu'un jour, moi aussi, je vais pouvoir être avec Dieu dans son règne, que j'ai une place avec lui. C'est pas de me détendre, c'est pas de me relâcher, mais c'est de travailler justement pour voir le jour de son royaume venir. Je dis, Seigneur, que ton royaume vienne, c'est ça que Jésus a prié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite. Et le repos, c'est d'avoir l'assurance que justement, on a une place qui nous est réservée. Empressons-nous donc de rentrer dans le repos de Dieu parce qu'il est le seul à pouvoir offrir un repos qui soit éternel. Le seul. Et c'est ce qu'il dit au dernier verset qu'on a ce matin. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, au verset 11, il dit, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Mais est-ce possible de trouver le vrai repos pour nos âmes? Je reviens à la question du début. Est-ce que c'est possible de trouver le vrai repos pour nos âmes, même au travers du désert de nos vies? Et la réponse est oui. Oui, c'est possible de trouver le vrai repos, même dans l'épreuve, parce que le vrai repos, c'est pas de travailler fort toute sa vie pour profiter d'une belle retraite, pour une belle retraite paisible, pour voyager partout ce qu'on veut dans le monde, dormir toute la journée, bien que ces choses-là ne sont pas mauvaises en soi, on s'entend, sont très importantes aussi. De prendre plaisir aux choses que Dieu a créées, ça en fait partie. Mais le vrai repos n'est pas dans une chose. Le vrai repos est en Jésus seul. Jésus seul. Qui a réussi, ou est-ce que partout, toute l'humanité avait échoué de ne pas pécher contre Dieu. Il est allé sur la croix prendre les fautes de toute l'humanité pour ouvrir le chemin vers Dieu. L'accès à Dieu était fermé par le péché. Et la croix est venue déchirer, est venue enlever cette barrière-là. Et qui nous dit, viens, maintenant tu peux entrer dans mon repos. Promis. Puis être avec moi pour l'éternité. Aujourd'hui, chaque jour devient un repos. Chaque aujourd'hui devient un repos pour quiconque qui répond à l'invitation par la foi. Parce que l'Esprit de Jésus, l'Esprit est en chacun des croyants aujourd'hui. Comme l'a si bien dit Victor Hugo, le pardon. Le pardon, quel repos de se savoir pardonner. Depuis la Genèse, nos cœurs sont rebelles, sont errants, sont incapables de trouver le repos. Je ne sais pas si vous le sentez comme moi, cette aspiration-là de juste pouvoir laisser les soucis de la vie. Depuis la Genèse, on poursuit une illusion de repos, puis elle nous est vendue partout, partout dans les centres d'achat. Mais on n'en est jamais satisfait, en fait. Mais l'Évangile, la bonne nouvelle, l'Évangile de Christ, c'est que ceux qui sont pardonnés n'ont plus la colère de Dieu qui repose sur eux. La colère de Dieu n'est plus. Jésus ouvre la porte dans son royaume, la porte à sa grâce infinie, alors que nous méritions, pas la grâce, mais la mort et l'enfer. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu, aujourd'hui, te fait l'invitation à laisser tes peurs, abandonner tes fardeaux, abandonner ton péché, le laisser diriger ta vie, d'être le maître, de régner sur ta vie. Et il te dit ce matin, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. Je vous donnerai les bénédictions célestes que Dieu a promises aux croyants qui persévéreront dans les épreuves de la vie. Aujourd'hui, je peux être en paix, même si je suis malade. Même si je perds mon travail, même si je n'ai pas aucune finance dans mon compte, je peux être en paix. Je n'ai pas à être troublé parce que Dieu offre un repos éternel et un héritage incomparable à rien d'autre. À celui qui croit. Mais nos cœurs sont comme encore entre deux. Il y a le ici, ce qu'on vit ici, puis il y a le monde à venir. Puis on est comme entre deux, comme un peu deux aimants qui sont pas encore... on est comme dans une zone là, qu'on n'a pas encore le repos complet. Mais il est promis, puis on le sait qu'il va venir. Puis moi, personnellement, souvent, pour trouver le repos, j'ai pas besoin de faire quelque chose. J'ai juste besoin d'arrêter tout ce que je fais, puis d'aller à Dieu. D'ouvrir ma Bible. Ces paroles sont là. Ces paroles nous ont laissé. D'ouvrir ma Bible. D'avoir un temps de pause où ce que j'ai plus les soucis de ma vie, puis d'ouvrir ma Bible pour me rappeler de ses promesses. Parce que si je le fais pas, on s'entend que si je le fais pas, j'oublie. Hein? Je sais même plus qu'est-ce que j'ai porté hier. Là, fait que... Mais de prier, de même prendre ma guitare aussi, prendre un temps d'arrêt. OK, Dieu, j'ai besoin de me rappeler qui tu es puis quelles sont tes promesses. Et ça semble simple, mais c'est vraiment difficile de s'arrêter. Hein? Prendre le temps. Mais on est faible, mais Dieu, lui, est fort. Dieu, lui, il a la grâce. Il n'y a pas de culpabilité sur ceux qui sont pardonnés. L'Éternel est un Dieu de grâce, de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. Mais il ne traite pas le coupable en innocent, il ne punit pas la faute des pères, sur les enfants. Il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Empressons-nous donc de rentrer dans son repos, parce que Dieu est le seul qui offre un repos qui soit éternel. Et à ce moment, j'aimerais ça que François, on puisse juste prendre un temps d'arrêt, justement. Là. Vous savez comment que la semaine va vite, puis même des fois, le dimanche matin va vite aussi. Et pour moi, quand je pense au repos, étant musicien, je pense à un chant. Je pense au chant « Quel repos! » « Quel repos céleste! » qui dit « Quel repos, Jésus, d'être à toi! » À toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi. Tout est bien. Tout est bien. Ma paix est infinie. Et Jésus veut prendre tes fardeaux ce matin. Tu n'as pas besoin de les garder. Je dis quand même, Seigneur, mais Seigneur, je suis tellement accroché à ça. Je ne sais pas ce qui va arriver si je lâche prise et je t'abandonne cette chose-là. Je m'accroche en ce moment à cette chose-là. Mais peut-être, Seigneur, que je réalise ce matin que dans le fond, c'est plus en cette chose-là que je cherchais ma sécurité qu'en toi. Que tu veux prendre mes fardeaux ce matin et me faire mon cœur léger. Seigneur, qu'on puisse juste voir la croix qui est vide, la croix qui est vide qui nous ouvre le chemin vers toi, vers tes promesses. En Christ, tes promesses sont scellées On a l'assurance de notre salut. Et je te prie, Seigneur, ce matin pour chacune des âmes, les cœurs qui peuvent être lourds, qui peuvent être fatigués, qui ont besoin de repos. Mais Seigneur, tu connais nos besoins mieux que nous-mêmes. Notre réel besoin, ce n'est pas une détente éternelle, mais c'est un pardon éternel. Et tu nous fais l'invitation ce matin de venir à toi. Être chargé et fatigué, je vous donnerai du repos. Et je te prie, Seigneur, pour que chacun puisse répondre à l'invitation que tu nous fais ce matin. On veut courir vers ton repos, en fait. Courir vers ton repos, parce que c'est en toi qu'ils sont la vie, les paroles de vie éternelle. Quel repos de se savoir à toi. Alors, je te remercie pour ton Église. Je te remercie pour le temps que tu nous as donné ce matin, pour ta parole aussi, qui est tellement précieuse, puis que je te prie que tu puisses garder près de nos cœurs. Merci de ce qu'il n'y a plus de culpabilité en ton Fils ce matin. Il y a l'accusateur qui est là, qui veut nous traîner dans la honte, mais Seigneur, il n'y a plus de honte à celui qui est pardonné et appelé enfant. Je te prie pour que chacun, Seigneur, garde la foi, qu'il puisse persévérer, jusqu'à la fin et entrer dans ton repos, dans ton règne. Et merci pour ton Église, si précieuse, tellement précieuse que tu as donné ta vie pour elle, pour être avec elle. Merci pour chacun de tes bienfaits envers nous. Et on te prie avec l'assurance que nos cœurs sont entre bonnes mains. Que notre repos est en toi. Il n'est pas fermé, mais toujours disponible aujourd'hui. Et c'est dans le nom de ton Fils qu'on te prie.